Si l'on veut trouver un fil rouge entre les lectures de ce dimanche, c'est peut-être une invitation à réfléchir sur le statut de la victime et la manière dont nous pouvons affronter l'injustice et le mal. Qui est l'ennemi ? Jésus nous demande d'aimer nos ennemis et c'est bien que nous puissions mettre des mots. C'est qui l'ennemi ? L'ennemi, c'est celui qui vient toucher mon incapacité d'aimer. L'ennemi, c'est celui que je me représente comme une menace. Sauf cas particulier, nous n'avons pas d'ennemi mortel qui désire mettre fin à nos jours. Ça arrive, mais de façon très exceptionnelle. Mais en revanche, des gens qui nous agacent, des gens qui sont dans une attitude de défi par rapport à nous, dont on se méfie, qui nous exaspèrent, qui nous font grimper au rideau, là, oui, tout de suite, il y a une liste formidable qui s'affiche devant nos yeux. L'ennemi, c'est celui qui, au fond, vient toucher en moi cette difficulté à aimer, vient réveiller ma colère, vient réveiller ma colère, vient parce que j'ai un sentiment d'injustice. Et du coup, la colère peut venir comme un des signaux de l'injustice et le fait de se sentir victime de quelque chose. Intéressant, la première lecture, Saül et David, pour vous donner quelques éléments de contexte. Saül, c'est le premier roi d'Israël. Il a nommé David comme chef de ses armées. Et le cher David remporte succès sur succès. Et Saül se sent menacé. Se sent menacé par la renommée de David, se sent menacé par son charisme, se sent menacé par tout le bien que l'on peut dire de lui. Il se devient jaloux, mais jaloux de façon maladive. Il le voit, lui, comme un ennemi. Et comme le dit la première lecture, je vous invite à reprendre donc, le livre de Samuel, il part avec 3 000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David et le mettre à mort. Et puis, David peut s'approcher du camp de Saül. Il y a un sommeil mystérieux, il s'empare de la lance, et du plus loin, de l'autre côté de la vallée, il l'interpelle, il dit « Regarde, j'ai ta lance, j'aurais pu te tuer et je ne l'ai pas fait. Alors que toi, tu me poursuis avec 3 000 hommes, il ne faut pas prendre la vie que le Seigneur a loin, parce que Saül a reçu l'onction. » Ça donne un premier critère par rapport au statut de victime et par rapport à cette manière d'envisager l'ennemi. Le premier critère, c'est reconnaître l'œuvre de Dieu dans l'autre. Et c'est ça qui est certainement le plus difficile. Parce que quand on souffre, quand on est dans une attitude de se sent menacé, on se sent injustement traité, que ce soit dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations au sein même de la communauté ecclésiale, on se sent injustement traité, on arrive à une forme d'aveuglement qui fait que l'aveuglement de Saül qui part avec 3 000 hommes, c'est disproportionné par rapport au jeune David. Voilà, cet aveuglement. Mais David a eu cette grâce de dire « Ne va pas toucher l'œuvre de Dieu chez Saül, ne va pas toucher cette onction. » Le fait que Dieu a posé un sceau, voilà, comme il a aussi au moment de notre baptême, il a posé un sceau. C'est d'abord, au fond, aimer ses ennemis, une certaine manière de regarder l'ennemi. Comment je découvre en lui que le Seigneur aussi agit, même si aujourd'hui, je reconnais qu'il me fait souffrir. Même si aujourd'hui, je reconnais que je suis victime d'injustice à cause de lui. Mais justement, c'est intéressant, le Seigneur, la première question, c'est dire, voilà, d'être attentif à l'œuvre de Dieu. Comment quelque chose que je ne peux pas atteindre, quelque chose qui est irréfragable, vous voyez, quelque chose qui comme le sceau du baptême, vous voyez, le baptême imprime un sceau en nous, comme baptisé, voilà, comme la nature, le fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est l'image, c'est quelque chose que l'on ne peut pas atteindre. Voilà, la ressemblance, on la travaille, mais l'image, on ne peut pas. Même les actes les pires que l'on puisse commettre ne peuvent pas entamer l'image de Dieu en nous et ne peuvent pas entamer l'image de Dieu dans l'autre. Je trouve que d'abord, c'est ce regard. Et ce regard, je trouve qu'il y a quelque chose qui souvent est mal interprété. Moi, j'aimerais, je vous propose une interprétation, mais vous aurez certainement la vôtre. Ce regard, en fait, il faut qu'il change. Et c'est ce que dit Jésus. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Et moi, je vois les choses comme ça. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé dans une autre direction. Ce n'est pas, de mon point de vue, l'invitation à encaisser, à se faire flageller d'être masochiste. Évidemment, Jésus, en sa passion, n'a jamais dit « Écoutez, vous avez encore un petit bout de chair à maltraiter, à martyriser, allez-y. » Évidemment, non. Mon interprétation, c'est quand on me présente l'autre joue, forcément, on change le regard. Et cette manière de changer de regard, c'est vraiment l'attitude du Saint-Esprit en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Je vois que dans la capacité de la beauté et la beauté dans l'autre, même s'il me fait souffrir, c'est ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture. On voit d'abord l'être charnel, oui, d'abord, oui, bien sûr, l'être charnel, on se sent agressé, bah oui, forcément. Il y a aussi un barbare qui sommeille en nous. Il y a aussi un barbare qui sommeille en nous. Mais c'est pas d'abord le barbare qui sommeille en nous que je vais réveiller, je vais découvrir que l'autre a la capacité de faire du bien, même si c'est difficile. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, vous en êtes tous au courant des attaques du 7 octobre par les terroristes du Hamas en Israël, qui ont fait plusieurs milliers de morts, des otages, etc. On en entend beaucoup parler. Quelque chose d'absolument terrible. Mais il y a eu une histoire qui était absolument étonnante. Une femme avait un petit restaurant. Parce qu'en plus, ceux qui s'étaient installés près de la Palestine, ce sont ceux qui voulaient la paix. Ce sont ceux qui étaient dans les kibbutz. Elle avait un petit restaurant. Et les terroristes débarquent. Ils débarquent. C'est une femme qui aurait pu être leur mère. C'était les gamins. Voilà, et elle, soyez bienvenue, tout ça avec force, mitraillette, tout ce que vous voulez, grenade, soyez bienvenue, asseyez-vous, je vous sers quelque chose. Ils étaient scotchés. Alors, par précaution, nos chers amis, si l'on peut dire ainsi, avaient mis de chaque côté, sur les épaules de cette femme, deux grenades. Et pendant 8 heures, un canon de Kalachnikov dans le dos. Et elle, tout sourire. Il y en avait un qui était blessé, elle l'a soigné. Tiens, j'ai fait du poulet, vous en prendrez? Ça a duré 8 heures. Bon, ensuite, les soldats israéliens, semble-t-il, ont eu un autre regard sur nos amis, mais je trouvais ça tellement puissant. Et elle s'est sortie, elle est vivante, et elle peut témoigner. Elle les a désarmés. Là, désarmé, mais là, intérieurement désarmé. Je trouve qu'il y a des moments assez exceptionnels, d'autres n'ont pas survécu, des plusieurs centaines, etc. Et puis dans l'histoire, mais je me dis, cette femme-là, elle a eu cette attitude d'un regard, elle n'a pas eu peur du mal, elle n'a pas eu peur de mourir, elle n'a pas eu peur du mal. Elle n'a pas eu peur de souffrir, il faut dire qu'il n'y avait pas non plus ses enfants, quelqu'un à protéger, parce que ça aurait pu être aussi beaucoup plus tendu, évidemment. Je me dis comment, au fond, c'est ce que dit le pape Jean-Paul II, la miséricorde impose une limite au mal. Le pardon, c'est ce que dit Jésus, pardonnez et vous serez pardonnés, la miséricorde impose une limite au mal, tu n'iras pas plus loin. Ce n'est pas un encouragement au mal. C'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait dire, oui, oh ben tu pardonnes, du coup, lui, il peut recommencer. Non, non. C'est une limite. Stop. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin. Le pardon, c'est justement, et vous faites bien la différence, entre pardon et réconciliation. Faites bien la différence entre pardon et réconciliation. La réconciliation, il faut être deux. Il faut que l'autre reconnaisse un statut de victime et l'autre reconnaisse un statut d'agresseur. Mais dans le pardon, c'est une démarche personnelle. Il n'y a pas besoin que l'autre reconnaisse le tort qu'il vous a fait. Et à quoi est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? Eh bien, à plusieurs choses, mais peut-être à deux choses en particulier. S'attrister du mal que subit mon ennemi. Par exemple, si j'apprends que celui qui m'a licencié injustement est atteint d'un cancer, je ne vais pas dire « Ah ben enfin, il y a une justice sur Terre ». Parce que là, vous vous dites « Ce n'est pas complètement apaisé ». Et je vais me réjouir si cette même personne gagne au loto. Ben, tant mieux pour elle, voilà, je me réjouis. C'est ces deux critères qui peuvent être assez intéressants de travailler par rapport au pardon et comment on arrive à une certaine paix. Je me souviens de cet article tout de suite après les attentats de 2015. Hein, c'est cet homme, j'ignore absolument les convictions, qui avait perdu son épouse mère, et la mère de ses deux enfants au Bataclan. Et le titre de l'article, c'était « Vous n'aurez pas ma haine ». Vous n'aurez pas ma haine. Il y a un démon, évidemment, pour l'agresseur, mais aussi un démon pour la victime. De vouloir faire payer jusqu'au centuple. Là, on parle de cas dramatiques, mais de façon plus habituelle. Dans nos relations, et n'oubliez pas que les histoires de la Bible, ça se joue dans un rayon de 5 mètres autour de nous. C'est là que se joue la Bible. C'est pas de choses de 2000, 3000 ans, non, non. C'est là, autour de nous, on regarde autour de nous, c'est la parole de Dieu, elle est là. Comme moi je suis au milieu de vous, hein, eh bien c'est la parole qui est au milieu, c'est ces histoires de la Bible qui disent quelque chose des relations, et forcément, nous sommes dans les relations. Donc c'est intéressant d'être attentif à ça, quand nous avons nous-mêmes ce statut de victime et que nous sommes injustement traités, que nous puissions prendre ce temps de recul, demander au Seigneur de faire au fond reposer, lui qui fait reposer, qui bénit les justes et les injustes, hein, qui est miséricordieux et qui pardonne. Il est bon avec pour les ingrats et les méchants, Dieu sans idée du mal, et ça, cette capacité d'amour qui ne se laisse pas arrêter par le mal, qui n'oublie pas le mal. Pardonner, c'est pas oublier, ça n'a rien à voir. On ne peut pas oublier, c'est évident. Dieu ne nous demande pas d'être amnésique. Mais je vais revendiquer le mal pour. Je vais m'appuyer sur le mal pour revendiquer la communion. Vous voyez, en tout cas, pour demander la grâce d'un cœur apaisé. Demander la grâce d'un cœur apaisé. Je trouve que c'est tout le mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment celui qui s'offre en victime. D'une certaine manière, on peut dire le plus petit d'entre nos frères. Hein, celui dont on peut tout faire, on peut maltraiter une hostie, on peut tout à fait sans défense face au mal et qui se livre dans nos mains. C'est pour ça qu'on vient à la messe. Parce que c'est une pédagogie. Une pédagogie pour déraciner en nous le désir de vengeance. Pour faire taire en nous celui qui est violent. Parce qu'il a été blessé. Et cette démarche intérieure, elle est loin d'être intuitive. Parce qu'il y a aussi des très grandes souffrances. Mais à de très grandes souffrances au plan personnel, eh bien, quand on est disciple de Jésus, eh bien, on veut s'approcher de l'autel et on voit des personnes et demander la grâce d'un apaisement. Et des personnes qui ne sont peut-être pas disciples de Jésus, comme cette femme israélienne, comme cet homme dont je ne connais pas du tout les convictions, qui nous montrent des exemples. Sachons aussi reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans ceux qui ne partagent pas notre foi. Ça, je pense que Sachons être modestes, humbles. Mais surtout, dans ce statut de victime, on est face à l'injustice, face à des violences moins graves, mais en tout cas habituelles, plus ordinaires, de demander de passer de l'être charnel à l'être spirituel. C'est ce que dit Saint Paul. C'est d'abord, oui, il y a en nous le monstre qui sommeille, qui veut faire payer jusqu'au centuple. Mais ensuite, il y a l'être spirituel, la danse spirituelle qui vient et qui vient pour nous apaiser, et nous sommes à son image. Et le Christ est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Et qu'est-ce qu'on fait à la messe? On vient à Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Hein, et on communie et on accueille l'être spirituel par excellence, vrai Dieu, vrai homme, hein, la présence réelle de Jésus sur l'autel, on l'accueille pour qu'il nous donne vie, là où la mort a semé son ravage. Vous voyez, donc je pense que ce sont des textes très forts, hein, qui sont que on peut nous-mêmes méditer et continuer à méditer. Et soi-même de dire comment je vois la miséricorde dans ma vie, comment j'arrive à une forme d'apaisement. Souvent, dans des relations avec des prochains proches, c'est souvent ça. On parle par exemple des questions de succession. Vous voyez, tu vois, les questions de succession, c'est toujours des choses un peu tendues. Voilà, on estime qu'on, voilà, l'évaluation de ceci, c'est peut-être pour une cuillère en inox qu'on va se batailler. Les questions professionnelles, etc. Comment arriver à un apaisement, hein? Comment, au fond, à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Hein? Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. C'est une attitude personnelle. Hein? Alors, la justice civile, elle a un autre regard, c'est autre chose, c'est normal. Mais personnel, intérieurement, de façon à ne pas être détruit par la souffrance et par ce statut de victime, mais au contraire, de découvrir dans la présence de Jésus Eucharistie, de découvrir celui qui nous permet une Pâque, c'est la Pâque de Jésus l'Eucharistie, celui qui nous permet une Pâque, qui nous permet de passer de la mort à la vie. Alors c'est cette grâce qu'on demande, c'est cette grâce parce que c'est la manière dont vous traitez les autres, eh bien, qui sera appliqué à vous aussi. Hein, soyez attentifs faire du bien à ceux qui vous en font, mais quelle reconnaissance cela. Oui, tout le monde fait du bien à celui qui nous font. Être ami de celui qui est ami, prêter à celui qui va te rendre. Oui, bien sûr, tout le monde fait ça. Hein, et Jésus, donc il va plus loin. Il y a une nouveauté, c'est pour ça qu'on appelle Nouveau Testament. Il y a quelque chose de neuf. Oui, il y a quelque chose qui n'était pas dans l'Ancien Testament, qui était une nouveauté, mais qui devient l'unique commandement, alors qu'il y avait beaucoup de commandements, là il n'y a qu'un seul commandement, hein, celui de l'amour, hein, comme je vous ai aimé. Et voilà comme le Seigneur nous a aimés sur l'autel, et il continue de nous aimer et de se livrer entre les mains. Puissions-nous nous-mêmes recevoir cette mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, hein, qui, cette mesure-là, servira aussi de mesure pour nous. Amen.